Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bautas.
No flash, no scoop. C'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatasse.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Oye oye, les cueilleurs de bonnes nouvelles, et bienvenue sur CBN, 7 bonnes nouvelles sur 107.0, on Radio Bartas avec Virginie et Philippe. Bonjour Virginie.
Bonjour à vous.
Alors, on va démarrer par le répondeur. Alors, le répondeur, ce mois-ci, il ne nous a pas dit grand-chose parce que, on n'a pas de message. Alors, n'oubliez pas, je vous redonne le numéro. Si vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, n'hésitez pas. Alors, voici le numéro 04 66 47 06 92. Il marche toute la journée de 0h à 24h, donc n'hésitez pas. On a par contre eu quelques messages par mail, donc sur la boîte de CBN. Alors, je vous lis le premier. Alors que la demande de produits bio ne cesse d'augmenter, donc plus 10% en moyenne chaque année, et que le modèle productiviste s'essouffle, de plus en plus d'agriculteurs choisissent de passer au bio et de convertir leurs fermes. Au premier semestre 2015, le nombre de fermes bio en France a augmenté de 8% selon l'Agence Bio, plateforme nationale d'information et d'action. D'ici fin 2015, plus d'un million d'hectares seront cultivés sans pesticides en France. C'est signé Cécile.
La commune de Saillant dans la Drôme a mis en place une gestion en démocratie participative depuis 2014, avec des commissions, par exemple sur l'économie, la production locale, l'environnement, l'énergie, la mobilité. Ils ont mis aussi en place des groupes d'action et de projets, et même un conseil des sages. Une rubrique d'expression libre. Signée Farida. Alors on vous rappelle le mail de Radio Bartas pour que vous puissiez vous aussi contribuer aux bonnes nouvelles. C'est cbn@radiobartas.net.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Tout de suite, nous enchaînons avec notre prochaine rubrique CBN tout azimut et les bonnes nouvelles d'ici, d'ailleurs et du monde entier qui ne se sont pas arrêtées heureusement ce mois de novembre. Alors Philippe, est-ce que tu as une première bonne nouvelle à nous communiquer ?
Oui, aujourd'hui, pour ma première bonne nouvelle, je vais vous parler de Reporters d'Espoir. Alors c'est quoi Reporters d'Espoir ? C'est une association et qui est à l'origine d'un nouveau genre de journalisme qui se nomme le journalisme de solution, qu'on peut appeler aussi journalisme d'impact ou constructif. Alors comme son nom l'indique, c'est une démarche qui vise plutôt à diffuser l'envie d'agir en diffusant des informations sur ce qui existe, des initiatives qui font avancer. Et puis, c'est une façon, c'est une passerelle vers l'action.
C'est comme nous, quoi.
Et c'est vrai que sur Radio Bartas et CBN, on peut se dire qu'on fait un peu du journalisme d'espoir. Voilà. Alors, l'objectif, pour eux, il est de diffuser la connaissance d'initiative. Et parce que, d'après, ils font un constat, dans un monde où l'information est immédiate et mondialisée, si on se contente de parler uniquement des trains qui déraillent, on ne propage que la peur et l'immobilisme. Mais lorsque l'on dévoile la face constructive de l'activité humaine, alors je les cite, qu'on parle des hommes et des femmes qui font face et prennent l'initiative, on génère de l'espoir, de l'innovation et du changement. Le journalisme de solution, c'est une idée qui fait son chemin. Et donc le 12 octobre dernier, l'association Reporters d'Espoir a remis des prix, en fait, puisque c'est un de leurs moyens d'action. Ils remettent des prix à des journalistes. Alors je vais vous donner quelques exemples, faire un petit rapide panorama de ce qui s'est, quelles émissions sont primées. Alors le prix télévision, il y a deux prix ex aequo, donc Laurence Cuvillier et Mathieu Commin. Bon, moi je ne les connais pas personnellement, voilà.
Pareil.
Bon. Mais c'est une émission qui s'appelait Énergie solaire et artisanat Maya. Ils présentent en fait, donc je les cite à nouveau, hein. Le thème de l'émission c'était « Pourquoi ne pas fabriquer soi-même ses propres panneaux solaires ?» C'est une artiste mexicaine, Armos Munoz, qui a lancé cette idée. Elle a voulu apporter l'énergie solaire dans les villages reculés du Yucatan, la péninsule mexicaine, peuplée essentiellement de Mayas. Mais à une condition que les femmes du village de Granada s'approprient la technologie et l'intègrent dans leur tradition locale. Donc en fait, c'est pas juste amener des panneaux solaires, voilà, c'était le thème de l'émission, mais les fabriquer vraiment sur place. Le deuxième prix, c'était Amira Swilem et Mathieu Joannin et Delphine Renaud, qui ont fait une série de reportages... En Terre Sainte pour comprendre, ça s'appelle, c'est diffusé sur Canal+, et cette série de reportages présente le voyage d'une vingtaine de jeunes du Val d'Oise, en Israël et Palestine. Et donc cette initiative en fait, qui est organisée par la mère du premier militaire qui a été assassiné par Mohamed Merah en 2012. Voilà. Et elle a voulu, à travers ça, faire qu'il n'y ait plus jamais d'autres Merah ou frères Kouachi en France. Voilà. C'est un voyage initiatique. De découverte interculturelle, d'apprentissage et de tolérance religieuse. Alors, le prix radio, parce que bon, faut quand même en parler, hein, c'est Combastin, c'est diffusé sur Radio Nova, et ça s'appelle Le futur, c'est maintenant. Donc, Combastin, il se décrit comme un guetteur d'innovation sociale, technologique et environnementale, et c'est le premier magazine trimestriel qui est dédié aux innovations, à la société en mutation et à la lutte contre la sinistrose ambiante. Voilà, c'était les trois premiers prix. Alors il y avait un prix aussi pour la presse écrite et tout ça, mais voilà, vous pouvez retrouver le détail sur le site de Reporters d'Espoir si ça vous dit, et puis évidemment continuez à écouter Radio Bartas parce que c'est porteur d'espoir.
Alors, ma première bonne nouvelle concerne la justice belge qui a fait plier Facebook. Et oui, c'est un petit peu un coup de théâtre grâce à ce jugement en Belgique qui a ordonné récemment à Facebook d'arrêter, sous 48 heures, de tracer les internautes sans leur consentement. La peine encourue, s'il continuait, était de 250 000 euros par jour. En fait, c'est une plainte qui a été déposée par la Commission de la protection de la vie privée en Belgique qui conteste l'utilisation par le réseau social bien connu de cookies. Vous savez, c'est ces micro-fichiers qui conservent les données ou les habitudes des internautes et qui continuent de les pister. Donc, ce qui fait que même si quelque temps après, vous retournez sur une page Facebook, on vous reconnaît et puis on peut vous envoyer de la publicité en lien avec les pages que vous avez pu consulter par ailleurs. Donc, ce jugement, il est important. Ça peut créer un précédent et les autres pays de l'Union européenne pourront peut-être s'en saisir aussi, ce qu'on espère, le plus vite possible. Pour plus de précisions, c'est un article publié dans le site Le Soir.
Une bonne nouvelle qui est un peu passée inaperçue, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, puisqu'elle s'est déroulée en septembre à La Havane. Donc, après 6 années d'efforts, donc un accord a été signé entre les FARC et le gouvernement colombien, ce qui met fin à un conflit qui a duré quand même plus de 50 ans. Voilà, donc ils se sont réunis sous le contrôle, les négociations ont été menées sous le contrôle de Cuba et de la Norvège, donc ce qui donne une garantie de durabilité, hein, puisque voilà. L'accord n'est pas complètement finalisé, puisque après avoir signé en septembre, ils se sont donné 6 mois pour vraiment le finaliser. Mais le plus dur a été fait en septembre, parce que la grosse question, c'était le droit des victimes. Voilà, il fallait que des deux côtés, les gens qui ont commis des crimes soient jugés, que le droit des victimes soit reconnu, c'est-à-dire le droit à la réparation et à la punition des crimes qui avaient été commis contre eux. Donc c'était vraiment le point sur lequel ils ont discuté pendant 6 ans, difficilement, mais voilà, là c'est réglé. Tous les, comme je disais, les gens qui ont commis des crimes, ils vont être jugés. Alors, il y aura des peines sans privation de liberté pour ceux qui accepteront des travaux d'intérêt généraux, hein, pour une durée de 4 à 8 ans. Mais il y aura aussi des peines de prison qui vont être prononcées. parce qu'il y a des, bon, pour des petits délits également. Et puis, ceux qui ne voudront pas reconnaître leur crime, et, ben, ils peuvent avoir jusqu'à 20 ans de prison. Donc voilà, tout ça c'est écrit et c'est signé par les deux parties. Donc ben, on peut se féliciter de cet accord. C'est vrai que ça faisait longtemps que ça durait et que c'était assez dramatique.
Bonne nouvelle, fin des pesticides dans les communes. Et oui, c'est fini le recours aux produits chimiques pour entretenir nos parcs, jardins communaux. Les agents des espaces verts vont devoir s'adapter et apprendre à travailler différemment. C'est un plus de toute façon pour leur santé, pour l'air ambiant et pour les sols. Alors, on ne pourra plus utiliser les fongicides, les insecticides, les désherbants. Alors, ça inquiétait un petit peu hein, les employés municipaux qui avaient l'habitude de fonctionner avec ces produits. Donc, il y a une journée d'information qui a été programmée fin octobre dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau exactement, où chacun a pu poser ses questions et puis avoir des réponses concrètes en face pour les aider à foncer. Cette directive, elle va rentrer en vigueur le 1er janvier 2017. Donc c'est un grand pas, hein, ça paraît évident. C'est vrai qu'il y a déjà des communes, de nombreuses communes,
oui,
notamment autour de chez nous, qui le font déjà. Mais ce n'est pas cas de tout le monde, donc il ne faut pas oublier. Et du coup, ça va les obliger vraiment à aller travailler dans ce sens. Bon, il y a quand même des petites dérogations, hein, malheureusement. Par exemple, les stades de foot, hein, ils pourront continuer d'utiliser ces mauvais produits, mais peut-être que petit à petit, ils vont réfléchir et trouver d'autres solutions.
Mais oui, on y croit. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle écologique pour en ces temps de COP21. Voilà, donc ça se passe au Danemark, sur deux îles. Alors j'ai un peu de mal à prononcer le danois. Bon, je vais le prononcer à la française, hein, donc Samsø et Aero.
Allez, un petit effort quand même.
Ben, y a une lettre là, je sais pas, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Donc ben, ces deux îles qui sont vraiment en avance sur le plan des énergies renouvelables, car toute leur électricité est produite à partir de moyens renouvelables. Donc, ils en produisent même plus, car ils revendent de l'électricité au reste du continent danois. Et ils produisent comment ? Alors, ils ont 10 éoliennes offshore et 11 éoliennes terrestres, plus une centrale solaire qui est combinée avec des résidus de paille, donc qui sont issus de l'agriculture locale. Voilà. En tout, ils sont 4000 habitants sur ces îles. Et ils ont commencé dès 80, en fait, à investir dans le solaire et les éoliennes. Et donc, ces installations, maintenant, sont largement amorties et même rentables, hein, puisqu'ils revendent de l'électricité. Mais ce qu'ils voudraient, en fait, c'est arriver à 100% d'énergie renouvelable. Il y a toujours la question du transport, où forcément, pour leur voiture, ils utilisent de l'essence et tout ça. Mais ils sont en train de réfléchir vraiment à l'installation donc, de véhicules électriques sur toute l'île, parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont plein d'électricité. Et ils ont aussi, en parallèle, évidemment, travaillé sur l'efficacité énergétique. Il ne suffit pas d'avoir plein d'énergie, il faut aussi l'économiser. Ça permet d'optimiser le système, hein, en économisant sur l'isolation, l'éclairage, etc. Et alors, voilà, c'est quand même une super bonne nouvelle parce que en plus de tous les aspects techniques, il y a les aspects humains. En fait, ils ont géré ça sous forme de coopérative. Donc, les gens, ça apporte du lien social. Hein. Il y a quelques années, on entendait souvent les hommes qui relient les hommes dans le secteur de l'énergie. Voilà. Là, donc, les habitants donc sont associés à la gestion de ce qui est de l'équipement existant, mais aussi au développement des projets. Alors, ils peuvent avoir des idées, les proposer, elles sont étudiées ensuite en commun, et ils les financent par le biais d'une coopérative, donc comme je disais, à hauteur de 20%. Donc voilà, bravo à eux. Et puis, bravo aux Danois aussi, parce que je crois que l'ensemble du pays, il est déjà au-dessus, en tout cas pour la réduction des gaz à effet de serre, au-dessus des objectifs de réduction de la COP21. Donc bravo, et puis j'essaierai de mieux prononcer le nom de leur île, je vous promets.
Alors, je vais vous parler maintenant d'une petite start-up qui propose des transports avec zéro essence. En fait, le fondateur, Nick Blake, de la structure qui s'appelle, dont la start-up qui s'appelle Imagine Cargo, part d'un postulat simple. En ville, une course à vélo, elle est souvent plus rapide qu'en camion. Et puis au train, le train, il est moins cher que l'avion. Donc, dans les deux cas, ces alternatives sont moins polluantes. Cette start-up, elle est installée à Zurich et elle a donné naissance à un concept de transport de colis, comme je le disais juste avant, sans essence. Alors, ça permet de réduire 99% des émissions de CO2 liées au transport d'un colis. Donc, c'est pas rien, 99%. Cette start-up autrichienne, elle cultive également une véritable éthique au niveau social. Et les 70 livreurs indépendants affiliés à Imagine Cargo jouissent de rémunérations, pour une fois, correctes. Et les 6 membres de l'équipe permanente reçoivent tous le même niveau de salaire, même les patrons. Donc, un an après son lancement en Autriche, Imagine Cargo, elle a s'émis en Allemagne et nourrit des velléités d'implantation en Espagne et en France. Donc, on a hâte de les voir et on leur souhaite la bienvenue.
Eh oui, bienvenue. Donc voilà, alors ma dernière bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, Virginie, pour les riches.
Ah, je les adore celles-là.
Dans la rubrique bonne nouvelle pour... c'est pour les riches. Alors, est-ce que tu as une Ferrari ?
Bien sûr, bien sûr.
Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique sur les routes du Caos. Alors, que les riches se réjouissent. Parce que les résultats de l'entreprise Maserati Ferrari a été multiplié par 100 en 10 ans. Alors, comment on arrive à ça ? Parce que ça fait des envies dans toutes les entreprises. Parce qu'en fait, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, donc ils vendent quelques voitures en plus, mais pas beaucoup plus. En fait, chaque voiture est vendue encore plus cher qu'avant. Donc du coup, c'est jackpot pour eux, et ce qui veut dire que nos riches, ils ne s'appauvrissent pas, ils s'enrichissent, puisqu'ils sont capables pour la même voiture de la payer beaucoup plus cher. Donc voilà, merci à Maserati et Ferrari qui ont bien augmenté leur prix, mais ils ont toujours des clients, donc voilà.
Alors moi, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, hein. Désolée.
il en faut bien aussi.
Les pauvres qui meurent de faim, plutôt même. Donc, je vais vous parler d'une belle histoire d'un homme qui a su arrêter le désert. Yacouba Sawadogo. Ah, Yacouba Sawadogo. Moi, c'est le Burkinabé qu'il faut que j'apprenne. Alors, en 1974, cet homme, qui était alors un tout jeune homme, a décidé de ne pas quitter son pays. Tout proche du Sahel, et de rester lutter contre la chaleur, la désertification. Ses voisins le prenaient pour un fou, mais lui, il avait eu l'idée d'utiliser une méthode ancestrale de culture qui s'appelle le zaïs. Ça consiste en fait à planter des graines, tout simplement, avec du fumier. Et peu à peu, les terres stériles autour de son village ont vu apparaître des petites pousses qui fleurissaient. Alors, fort de son résultat, il est parti raconter ce qu'il avait fait, raconter aux autres pour que d'autres villages puissent participer à son expérience. Alors, afin d'aider quand même les plantes à mieux résister, Yacouba, il améliore sa technique petit à petit et il décide de planter des arbres en complément. Ça paraît un peu évident maintenant, mais les grosses racines, ça retient mieux l'humidité, hein. Donc, cette pratique non seulement a sauvé la terre de la dégradation, mais elle a aussi permis de restaurer l'eau souterraine à des niveaux qui n'avaient jamais été atteints. Les arbres, ils sont devenus une épaisse forêt qui fournissent aujourd'hui du bois de chauffe, des palettes de plantes médicinales et vitales dans ces contrées un petit peu lointaines. Yacouba, il dit lui-même que les gens pensaient qu'il était fou quand il a commencé à planter ces arbres. Et maintenant, ils se rendent compte de l'avantage de la forêt. Il a aujourd'hui 66 ans, Yacouba. Il a replanté 70 hectares et réhabilité plus de 3 millions de terres stériles au Burkina Faso, qu'on appelle aussi le pays des hommes intègres. En fait, maintenant, la technique du Zaï, elle est utilisée dans 8 pays du Sahel. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et un homme tout seul, un petit agriculteur de rien du tout, il a réussi à trouver un système là où tous les organismes mondiaux avaient échoué. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de lui, parce que c'est vraiment celui qui a arrêté le désert.
Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
Vous êtes bien sur CBN 7 Bonnes Nouvelles sur le 107 à Radio Bartas. Nous venons d'écouter What's Up for No Blonde, très spéciale dédicace pour mon ami Dado. Pour la prochaine rubrique CBN Bien de chez nous, on va parler de bonnes nouvelles locales. Nous accueillons cette semaine Corinne et Thomas pour nous parler de la très fameuse et grande journée qui s'est déroulée à Florac le 29 novembre dernier, dans la mouvance du COP 21 et de la marche pour la planète.
Bonjour Corinne, bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, eh bien, donc vous avez participé à cette belle journée du 29 novembre. Alors déjà, en quelques mots, Thomas, qu'est-ce que tu fais à Florac ? Corinne aura la même question. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette journée ?
Alors, moi, je suis ici pour une licence professionnelle coordination de projet en éducation à l'environnement, que je fais donc juste à côté, à Supagro. Et donc, voilà, je suis très sensible aux enjeux climatiques. C'était pour moi, naturellement, de pouvoir m'engager dans cette journée. C'est ça qui m'a motivé, voilà.
D'accord. Et toi, Corinne, bon, on te connaît un peu sur les ondes de Radio Bartas, mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à... Comment t'as eu connaissance déjà de l'organisation de cette journée et qu'est-ce qui t'a poussé à participer ?
Eh ben, j'ai eu connaissance par un mail perso, et puis du coup, c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup, et je me suis dit, tiens, c'est super, une dynamique en plus qui est portée par des personnes et plus forcément par des structures, donc on se rencontre. C'est, voilà, donc je me suis inscrite dans la mouvance, et puis voilà, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire tous ensemble.
Bon, d'accord. Ben, effectivement, c'est vrai qu'on avait annoncé sur CBN avec Virginie il y a quelque temps. On avait dit que ce serait bien de faire quelque chose. Et puis, ben, en fait, ça s'est concrétisé. Donc, c'est super. Donc, à Supagro, donc, Thomas, dis-nous un peu ce qui s'est passé cette journée, ce que plus particulièrement vous avez organisé avec la bande d'étudiants de Supagro.
Alors, on a organisé plusieurs ateliers. Il y a eu aussi des choses qui ont été réalisées. Certains de mes collègues ont réalisé un arbre à souhait, c'est-à-dire c'était des bouts de bois qui avaient été assemblés. Et il y avait on suspendait au bout de ces bouts de bois des cartons avec des cartes qui représentait un peu notre territoire, le monde.
Oui, le monde, oui.
Voilà, les gens pouvaient écrire sur ces cartons des petits messages de paix, de soutien à ce mouvement, des envies pour leur territoire.
Oui.
Il y a eu aussi, moi, pour ma part, j'ai participé à l'organisation de débats, discussions.
Oui, alors ça, je crois que ça s'est organisé à 11h chez Martine et John, le bar de Place Boyer.
Ouais.
Alors, c'est un exercice, pas facile à mener quand même.
Alors, c'est vrai que ça ne s'annonçait pas forcément évident, ouais. Puisqu'on ne savait pas combien de personnes allaient venir. On ne connaît pas non plus les personnes qui allaient venir.
Et vous étiez combien alors pour débattre ?
On a été une quinzaine, je pense.
D'accord.
Pour la matinée. Et on a essayé de mettre en place une technique de débat assez innovante. Bon, c'est un débat mouvant où les gens sont debout et vont se positionner de part et d'autre de la pièce suivant leur position, et donc chacun après argumente, chaque groupe argumente et peut changer de position, de place dans la pièce à tout moment.
Ouais, donc vous aviez un peu préparé ça quand même, vous avez des techniques apprises.
Voilà, c'est des techniques qu'on
ouais,
a vues okay. En courant. Ouais.
Ouais. Parce qu'en fait, il faut dire que la manifestation, elle a été un peu perturbée, Corinne, par l'interdiction préfectorale de tenir une manifestation publique. Donc quelques jours avant, on a dû changer les choses.
Oui, il a fallu se réorganiser. Alors, quand même pour dire que ce qui est super dans cette journée, c'est que la mobilisation a été très très rapide, puisque la première réunion a eu lieu le mercredi 11 novembre. Donc c'est vrai que c'était avec des rencontres chaque semaine, ce qui veut dire que vraiment les gens ont mis le paquet pour que ça se fasse.
Oui.
Et alors, effectivement, donc, sont arrivés les événements et du coup, le fait qu'on ne puisse plus organiser de rassemblement. Alors, nous, à Florac, c'était pas un rassemblement, puisque l'idée, c'était vraiment de partager. Alors, il y a eu les travaux qui ont été effectués par les étudiants de Supagro, mais il y avait aussi l'idée de partager.
Voilà. Sur la place, sur l'esplanade, il y avait d'autres choses.
Mmh. Donc, il y a eu des vélos électriques qui ont été prêtés par des associations ou des personnes.
Des particuliers aussi.
Voilà. Il y a eu des voitures électriques qui ont été prêtées.
Oui.
Il y en avait trois. Et toute la journée, tout le monde s'est amusé vraiment autour de l'esplanade.
On a pu les essayer, ouais,
voilà,
c'est ça.
C'était vraiment super. Il y a eu le collectif FS qui portait l'événement, justement, et c'était très sympa de leur part.
Il ne faut pas les oublier, oui, effectivement.
Voilà. Parce que quand même, on a décidé que cette journée se ferait quand même, parce que c'était important. Et donc, ont été organisées les manifestations à l'intérieur, comme l'a dit Thomas. Et à l'extérieur, c'était plutôt sportif, du déplacement. Il y a eu un atelier de réparation de vélo. Et donc, ce fameux charlatan qui était fort bien décoré avec des éléments de nature.
Décoré nature, oui.
Voilà, et qui servait du thé, du café, etc.
Oui. Alors, est-ce que... Oui, donc sur l'esplanade, il y avait aussi des slacklines. On pouvait essayer des slacklines. On pouvait, comme tu l'as dit, un peu essayer les vélos. Et voilà. Et puis, discuter avec les gens qui utilisent des vélos, parce que l'idée, c'était un peu ça aussi. C'est de savoir ce qu'on peut faire avec un vélo électrique ici, quoi. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne participation, alors, à cette journée ?
Alors, je pense que oui, il y a des gens qui sont venus, qui ont peut-être été interpellés par tout ce qui a été mis en place. Après, moi, étant nouveau venu à Florac, c'est vrai que je me rends pas forcément trop compte, mais il y a eu des gens quand même qui se sont mobilisés, qui sont venus voir. Donc ça c'est déjà très positif.
C'est déjà une bonne nouvelle.
Ouais.
Tu peux le dire, toi.
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Ouais, et oui, moi aussi, puisque j'ai participé, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de monde. Alors, il y a des gens qui avaient prévu de venir, d'autres qui étaient un peu plus des badauds, qui sont arrêtés, voilà, regarder à la fois les ateliers de Supagro et les voitures et tout ça.
Ce qui semblerait, c'est que ça a quand même interpellé la curiosité des gens qui venaient, qui ne savaient pas forcément d'ailleurs, parce que comme ça s'est fait rapidement, l'information est passée, mais pas forcément auprès de tout le monde.
Oui.
Et les personnes sont venues de tous les âges pour faire leurs courses traditionnelles sur l'esplanade et quand même qu'on puisse être interpellé par ce qui s'y passait. Et moi, je trouve aussi que pour un 29 novembre à Florac, avec le temps qu'il faisait, il y a eu du passage, il y a eu du monde, et toute la journée, parce qu'on était là à 9h le matin.
Oui.
Et c'est vrai que à 3h, on commençait à avoir bien froid aux pieds, mais enfin bon, voilà, il y avait quand même du monde, et voilà, c'était chouette.
Il me semble qu'il y avait quand même aussi une information sympa à donner, c'est que l'esplanade était fermée à la circulation.
Voilà, on ne l'a pas dit, mais c'était pour nous, c'était évident, mais c'est vrai que c'était
le
truc
premier
aussi.
Point au démarrage de cette aventure, et aussi qu'il y a eu des moments un peu conviviaux avec de la musique et un pique-nique. Enfin, le pique-nique, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais...
On s'est installé devant le charlatan, il y avait des tables qui avaient été prêtées, et puis voilà, chacun avait amené son casse-croûte et le partageait.
Oui, et alors maintenant, voilà, pour finir, j'ai un peu envie de vous poser la question qui tue. Bon, vous pensez que ça a servi à quelque chose, ce qu'on a fait Thomas, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que ça a quand même son utilité. Moi déjà, personnellement, ça a été une chance de pouvoir participer à une manifestation. Voilà, il y a beaucoup de manifestations qui ont été empêchées pour les raisons dont on sait, mais on a pu quand même mettre en place des choses. Moi, je me suis aussi amusé, puis interrogé sur certaines choses. Donc, je pense que voilà, on a interrogé aussi les gens qui sont passés, qui sont venus se renseigner, peut-être tester des modes de transport qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, qui pourraient peut-être impulser une dynamique à Florac. Il y a un atelier qui a été proposé aussi.
On ne l'a pas dit parce qu'il y avait plein de choses. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout redit.
Ça, je pense que c'est important d'avoir pu donner la possibilité aux gens de s'exprimer et de mettre leurs envies.
De noter des idées,
qui
vont être transmises donc au conseil municipal de Florac. Des idées d'amélioration de la qualité environnementale sur Florac. Voilà, oui. Et toi, Corinne, ton sentiment par rapport à une journée comme ça, c'est utile, ça sert à quelque chose, ou alors on s'est fait plaisir à une vingtaine de personnes, et puis voilà, c'était sympa, mais sans
non,
plus.
Non, moi je pense que ce genre d'action, en plus avec Florac qui était quand même fermé toute la journée aux voitures, à la base ça s'appelait Florac sans voiture, mine de rien, ça a porté... C'est une petite goutte d'eau peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas anodin. Et je pense que des actions comme celle-ci, ça laisse une marque quoi qu'il en soit. Il y a des petits, il y a eu des enfants qui ont toute la journée fait du vélo, qui n'ont pas arrêté de tourner, etc. Il y a eu ces expositions, il y a eu les tags végétaux, enfin voilà, il y a eu des choses nouvelles qui ont interpellé pour faire autrement. Et voilà, même si c'était pas grand-chose, c'est toujours ça.
Le graphe végétal d'ailleurs... D'ailleurs, on peut encore le voir puisqu'il a été fait sur le parapet du pont sur le...
À côté de la mairie.
Voilà, à côté de la mairie. Donc vous pouvez aller admirer cette magnifique œuvre.
Voilà, donc c'est écrit, Florac s'engage pour le climat et vous ? Point d'interrogation. Voilà.
Voilà.
Moi, je voulais juste te dire ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette aventure, c'est justement la mobilisation des gens. Et quand, comme tu le disais, Corinne, en très peu de jours, il y a eu beaucoup de monde mobilisé et beaucoup d'idées nouvelles, créatrices, de plein de projets, et qui, ça ne va pas s'arrêter là. Et notre idée, c'est quand même de faire remonter à la COP21 aussi des choses via un groupe de jeunes qui va partir. Hein, c'est confirmé.
Oui.
Et puis aussi de continuer à Florac. Donc si vous avez envie de rejoindre cette mobilisation, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à Bartas ou sur le mail de CBN, parce qu'il y a des petits groupes qui vont se constituer pour continuer dans cette mouvance.
Voilà, et de toute façon, sur CBN, sur Radio Bartas, on manquera pas de vous tenir au courant. Alors merci à vous, Corinne, Thomas.
Merci.
D'être venu témoigner un peu de cette journée. Et puis à bientôt.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Et c'est déjà notre dernière rubrique CBN, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors ce mois-ci, un petit livre que j'ai découvert là, il y a quelque temps déjà, il s'agit de Complètement cramé de Gilles Le Jardinier. C'est l'histoire de Andrew Blake qui quitte l'Angleterre pour se faire embaucher comme majordome en France. Hein. Donc il en a assez de tout, il est lassé, mais finalement, entouré de personnages attachants et hippies, il va être obligé de tout recommencer. C'est un petit hymne à la vie, drôle et réconfortant. Mon conseil de film, enfin plutôt d'animation, hein, très très connu par les générations plus jeunes, c'est l'animation de Hayao Miyazaki, mon voisin Totoro. Réalisé en 88, donc c'est pas tout jeune, mais c'est toujours un bonheur de redécouvrir cette histoire d'après-guerre de deux jeunes filles qui viennent s'installer à la campagne pour être plus proches de leur maman qui est en maison de santé. Et dans cette nature, au milieu des rizières, les filles découvrent un nouvel univers, les voisines, les naraudes, les esprits de la maison et des garçons de leur âge, mais aussi un être fabuleux, ce fameux Totoro. Donc à voir et à revoir, pour le plaisir des grands et des petits. On écoute un petit morceau de musique avant la conclusion, malheureusement.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother, and I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, I got life. Sister, I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times.
Oh my God!
You. Oh, got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my teeth. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my teeth. Hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles, I got life, 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 life.
Eh bien, vous venez d'écouter Air I Got Life. Alors, ben, on arrive au terme de notre émission, Virginie.
Oui.
Et ben, il faut dire quand même que on est en décembre et que ça fait quand même maintenant plusieurs mois que on arrive à vous trouver des bonnes nouvelles. Donc, espérons que ça continuera en 2016. Donc, alors, merci d'avoir écouté CBN sur Radio Bartas sur le 107. Et évidemment, vous pouvez podcaster l'émission sur le site radiobartas.net. Et puis, elle sera rediffusée le vendredi 25, donc à 19h. Alors, oui, en plus, c'est super, c'est le jour de Noël, donc voilà.
Joyeux Noël, hein.
Ouais, joyeux Noël, et ça sera votre cadeau de Noël de notre part, hein. Et nous, on se retrouve à nouveau pour une dose de bonnes nouvelles le 4 janvier à 8h15 sur le 107. À bientôt.
Et puis, n'oubliez pas d'alimenter la boîte à bonnes nouvelles sur le répondeur de CBN 04 66 47 06 92. Allez, en 2016, on reprend les bonnes nouvelles. Et notre boîte mail, cbn@radiobartas.net. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
À bientôt. À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
À bientôt.
It was CBN on Radio Bartas. Thanks for listening.